Donc, nous voilà réunis à nouveau autour de la parole de Dieu. Et je remercie le Seigneur, encore une fois, de ne pas se limiter à des paroles intellectuelles, théologiques, que nous avons tous la capacité d'apprendre, d'être formés, ce que vous voulez. Mais il a voulu, dans sa bienveillance, que sa parole se vit. Et je remercie le Seigneur d'avoir permis ce week-end de vivre concrètement ce que ça veut dire, la communion fraternelle avec Emmanuel et avec Abel. Voilà une preuve tangible, concrète, mais ce n'est pas seulement des paroles en l'air. Et je les remercie avant de te remercier, Emmanuel, et avant de te remercier, Abel. Et ce n'est pas une chance, c'est une grâce d'avoir un tel papa. Voilà, je voulais te le dire après les échanges que j'ai eus avec ton papa. Merci. À ces éléments-là, j'ajoute autre chose. Depuis les années 90, je lisais les écrits des hommes de Dieu qui ont vécu quelque chose concrètement dans leur vie. J'ai toujours répété ici que pour que je lise quelque chose de quelqu'un, il faut que je connaisse la vie de ce quelqu'un. Et c'est en connaissance de la vie de ce quelqu'un que je peux lire ce qu'il a écrit. Sinon, en général, je suis très réticent, je ne lis pas vraiment les livres. Et parmi ces hommes de Dieu qui m'ont parlé, il y en a un qui s'appelle Baxing. Eh bien, figurez-vous, c'est un homme de Dieu dont l'influence est venue jusqu'en France. Il a parlé en France et il y a même une rencontre annuelle qui se fait, on est allé avec Viviane il y a 2-3 ans, mon épouse, qui reprend la vie de Baxing et il a instauré cette conférence. Et figurez-vous que cet homme de Dieu, c'est un Indien, il s'appelle Baxing, et je vous conseille de le lire. Il a vécu cela. Et figurez-vous que ce Baxing, notre frère Emmanuel, l'a connu à l'âge de 19 ans. Vous voyez comme... J'ajoute un autre homme de Dieu, et je vous conseille de lire aussi. Cet homme de Dieu s'appelle Sandhu Sandar Singh, que j'ai lu. Et il a précédé Baxing, et c'est un homme de réveil, et encore une fois, un homme qui vient d'Inde. Vous voyez, c'est quelque chose qui est juste en un week-end, en peu de temps, et Dieu a parlé à travers voilà, tout cela. Et il y a même, j'en ai parlé à Abel, il y a une église à Paris qui s'appelle l'église Patmos, elle est à Sarcelles. Et cette église-là, ils ont une mission, c'est qu'ils éditent, ils rééditent, ils traduisent des écrits d'hommes de Dieu du 19e, 20e, dont Baxing, dont Sadhu Sundar Singh, dont Austin Sparks, dont Watchmani, et ils publient gratuitement les brochures, et ils les délivrent gratuitement. Je n'en avais pas parlé encore à l'église, mais un jour vous en parlerez. Ce sont des brochures gratuites, distribuées, qui le donnent aux enfants de Dieu. Et je vous invite à aller voir cette église-là, et vous verrez que cet homme de Dieu indien, il est encore vivant, grâce à cette église. Et je reviens maintenant notre partage, notre communion, notre pain que nous allons partager ensemble. Et cette fois-ci, je vais vous montrer que la Bible n'est pas misogyne. Que Dieu parle à travers les femmes, pas seulement les hommes. Oui, à travers les femmes. Et parmi ces femmes à travers lesquelles Dieu a parlé, bien entendu, il y a les femmes qu'on trouve dans la Bible. Il y a tellement de femmes de Dieu, c'est ça. Mais il y en a une qui a vécu le réveil au pays de Galles au début du XXe siècle. Non seulement elle l'a vécu, mais Dieu s'est servi d'elle et de sa famille pour propager sa parole. Cette sœur qui est décédée en 1927, oui, elle a vécu au XIXe siècle et au XXe siècle. Cette sœur, elle s'appelle Jessie Penn Lewis. Et je ne peux pas ne pas vous parler de cette sœur que Dieu a permis à travers ses écrits que je sois nourri. Alors, mon intervention sur cette sœur, ce qu'elle a dit, ce sera sur 3 dimanches. Parce que son message se résume en 3 parties. Aujourd'hui, ce sera le chemin de la délivrance. Le dimanche suivant, pas dimanche prochain, mais après, ça sera, le thème, ce sera jusqu'à quelle profondeur la croix doit-elle pénétrer en nous. Vous voyez, on revient toujours à la croix. Sans la croix, on n'est rien. Et le troisième, ça sera livré à la mort. Et toute sa vie, il faut que je vous parle de cette sœur avant d'eux. Et toute sa vie est centrée sur la croix. Elle a vécu une expérience pratique dans sa vie pour arriver à vivre la croix et Dieu se serve d'elle. Ça veut dire, en fait, pour que Dieu se serve de cette sœur Jessie Penn Lewis, il n'a pas voulu collaborer avec elle. Il a refusé la collaboration de cette sœur. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, si tu collabores avec moi, c'est que tu emmènes quelque chose de toi. Mais moi, je ne veux pas que tu collabores avec moi. Je voudrais que tu meurs entièrement et c'est moi qui ai en toi. C'est le message de la croix. Souvent, on veut collaborer avec Dieu et on dit, Seigneur, qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Mais le Seigneur dit, je ne veux rien de toi. Mais on insiste. Seigneur, je veux donner ma vie, je veux faire, dites-moi. Il insiste, il dit, mais je te dis que je ne veux pas, je ne veux rien. Ce que je veux, c'est que tu meurs à toi-même. Et quand tu es mort, tu es un cadavre et maintenant je peux faire ce que je veux de toi. C'est ça qu'il veut de nous. Et le plus dur dans notre vie, c'est de nous mourir à nous-mêmes et de réaliser que nous ne pouvons rien faire. Seulement le Seigneur peut faire quelque chose en nous. Cette sœur Jessie Penn Lewis, qui est née en 1861 dans le sud du pays de Galles. Son grand-père était pasteur. Vous voyez, elle vient déjà d'une église, d'une famille chrétienne, cette sœur, Jessie Penn Lewis. Je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, c'est très bien. Alors, cette sœur a réalisé dans sa vie qu'il n'y a pas que le pardon des péchés et le salut. Et on a tendance dans nos églises à prêcher le pardon et le salut. Vos péchés sont pardonnés, vous êtes sauvés. Le péché... Elle a réalisé un troisième élément, la sanctification. C'est-à-dire que ma vie doit être conforme à ce que Dieu demande, au point que je dois mourir à moi-même, et c'est Dieu à travers moi. Un chrétien ne doit pas s'appuyer et vivre seulement avec « mes péchés sont pardonnés, je suis sauvé ». Non, il nous demande à vivre dans la sanctification. Notre vie doit correspondre à ce que Dieu veut. Voilà ce qu'elle écrit. Elle dit « tous les chrétiens sont destinés à s'unir à la vie qui leur est accordée d'en haut et non à essayer de bricoler leur ancienne vie. Bricoler leur ancienne vie pour s'épuiser et essayer d'atteindre les cieux dans de grandes difficultés. » Cette sœur, elle n'était pas dans la théorie. Elle était aussi investie dans la vie sociale. Elle ne disait pas « je suis dans mon église, j'ai investi seulement dans mon église ». Non, le Seigneur dit « vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde ». Eh bien, elle s'investissait dans des associations de lutte contre l'alcoolisme auprès des jeunes. Vous voyez, dans sa pratique, dans la société, elle s'investissait. Voilà ce que je peux vous dire sur cette sœur. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez avoir sa biographie. Je ne vais pas vous détailler. Seulement, cette sœur, elle a réalisé, durant le réveil du Pays de Galles, elle voulait être baptisée du Saint-Esprit. Elle priait jour et nuit, « Seigneur, je veux être baptisé du Saint-Esprit. » Le Seigneur ne répond pas. Il ne répond pas. Et quand il a répondu, il lui a donné une vision. Je vous en avais déjà parlé. Et cette vision est la suivante. Elle se voyait comme une serpillière sale, alors qu'elle demandait le Saint-Esprit. Et en même temps, il y a une voix à l'intérieur d'elle qui lui dit, « Crucifié, crucifié. » Elle ne comprenait pas ce que ça veut dire. Et Dieu lui a donné la réponse en lisant Romains 6. « Tu es morte. » Mais c'est en Christ que tu es morte. Tu veux le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'a de sens que si tu réalises que tu es morte. Quand tu es morte, c'est-à-dire vidée, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Si tu dis le Saint-Esprit en maintenant ta vie, c'est côtoyer, c'est ce qu'on appelle le compromis. Et le Seigneur dit, je vomis le compromis. C'est très sérieux. Après ce témoignage de notre sœur Jessie Penn Lewis, maintenant, on peut parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a dit. Le chemin de la délivrance. Cette sœur, elle est pratique. Et en général, les femmes sont pratiques. Elle ne part pas dans la théologie. Elle va nous dire concrètement, voilà les questions que je me posais, voilà les questions que je me pose, voilà la réponse. Mais elle ne part pas dans des... Souvent, nous les hommes, on a tendance. La théologie, oui, ça valorise l'intellect. Le chemin de la délivrance. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Je vous ai dit que c'est Romain qui lui a parlé dans sa vie. Comment être libéré de l'esclavage du péché et de la vie propre? Question simple. Telle est la grande question que se posent de nombreux enfants de Dieu. Cet affranchissement simple semble impossible. Impossible de se libérer soi-même. Mais les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. La parole de Dieu déclare « Un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 14 et 15. Quand nous sommes venus à Christ pour la première fois, chargés du fardeau et de la culpabilité de nos péchés, j'espère que c'est le cas de tout le monde quand on vient au Christ, c'est qu'on est, notre péché nous culpabilise. Si nous sommes contents dans notre péché, il y a un grave problème. La délivrance nous paraissait tout aussi irréalisable, mais lorsque nous avons pris Dieu au mot et que nous sommes appropriés sa parole, eh bien, le Saint-Esprit y a rendu témoignage et nous a prouvé qu'il avait le pouvoir d'accomplir ce qui nous paraissait impossible. Revenons à cette première, à cette question et à ce sujet du chemin de la délivrance. Nous sommes incapables de nous délivrer. Revenons à cette première étape de notre délivrance. Et rappelons-nous de quelle manière elle fut opérée. Elle nous cite les étapes normales d'un chrétien. Première étape, nous avons été convaincus du péché. Et j'ai tendance à dire, à chaque fois qu'elle pose la question, nous devons chacun de nous dans cette église nous poser la même question et nous devons trouver chacun la réponse parce que personne ne peut donner la réponse à l'autre. La réponse ne vient que de soi. La première, c'est nous avons été convaincus du péché. Nous avons lutté pour obtenir la paix et avons tourné nos regards sur nous-mêmes pour trouver quelque soulagement. Mais tous nos efforts ont été vains, inutiles. Au seuil du désespoir, il nous a été révélé que la délivrance ne pouvait venir que d'une puissance qui soit en dehors de nous. Si nous voulons être libérés, on ne peut pas nous libérer de nous-mêmes, mais il nous faut une puissance qui vient de l'extérieur en nous. Et c'est cette puissance qui doit nous libérer. Enfin, nous avons porté notre regard sur celui, non seulement qui donne la puissance, mais qui est la puissance. Nous avons porté nos regards sur Christ. Nous l'avons contemplé sur la croix du calvaire, portant nos péchés en son corps sur le bois. Eh bien, nous avons, par la suite, cessé nos luttes. Nous nous sommes reposés sur l'œuvre expiatoire, accomplie, et nous avons trouvé la paix par le sang de sa croix. Le Saint-Esprit, par la suite, a rendu ce précieux sang efficace pour notre âme, et nous n'avons plus eu aucune conscience de nos péchés. Hébreux, chapitre 10, verset 2. La chose impossible est devenue un fait accompli. Justifiés par la foi, nous avons réalisé que nous avions la paix avec Dieu. Romains 5, 1. La vie nouvelle, issue de Dieu, nous a été communiquée par l'Esprit Saint et il a rendu témoignage à notre esprit que nous étions enfants de Dieu. Romains 8, 16. Avons-nous vécu cela? Ou essayons d'enlever quelques étapes pour nous arranger? La sœur nous le dit, parce qu'elle les a vécues. Ces expériences successives se répètent d'une manière claire et précise lorsque Dieu nous amène à connaître la délivrance de l'esclavage, du moi et du péché. Rappelons-nous qu'on a dit depuis le début, ce qui est impossible à l'homme, est possible à Dieu. Si nous ne vivons pas ces étapes-là, peut-être que nous avons mis nos efforts sur nous-mêmes, mais on n'arrive pas. Mais c'est le moment de quitter cela et dire à Dieu maintenant, je me livre totalement de toi parce que toi, tu peux tout. Moi, je ne peux rien. L'Esprit de Dieu commence d'abord par nous convaincre de la servitude du péché et du caractère exécrable de la vie propre. 1 Corinthiens, chapitre 3, Verset 1 à 3. Nous luttons pour vaincre nos péchés et nous libérer nous-mêmes. Nous crions à Dieu et cependant la victoire semble de plus en plus problématique. L'ennemi nous suggère, ce n'est pas pour toi, ou la délivrance n'existe pas. Nous essayons de nous livrer de plus en plus à Dieu, mais nous tombons de chute en chute. Nous languissons d'accomplir la volonté de Dieu, mais plus nous nous y efforçons, plus il nous semble que nous agissons d'une manière contraire à nos désirs. L'horreur que nous inspire le péché augmente et sa puissance paraît plus grande. Nous nous trouvons placés dans des circonstances qui font ressortir les plus mauvais côtés de notre nature, jusqu'à ce qu'enfin nous nous maudissions nous-mêmes et nous écrions, comme Romains chapitre 7, verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché ?» Arrivé à ce point d'amer désespoir et de ténèbres, l'Esprit de Dieu nous révèle que la délivrance doit venir d'une autre source et que la vie propre ne peut pas se vaincre d'elle-même. Il nous ramène alors vers le calvaire, réalisant la saleté de notre nature. L'Esprit de Dieu nous ramène alors au calvaire et projette sa lumière sur tout ce qu'implique la mort du Seigneur pour la délivrance de ceux qui se confient en lui. Il nous conduit à la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14. Un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Nous comprenons maintenant que le Sauveur a porté le pécheur et non seulement le péché sur la croix. Et qu'en lui, nous sommes morts au péché et à l'ancienne vie du moi. Nous sommes prêts enfin à nous reconnaître comme crucifiés avec Christ et à vivre la vie crucifiée. Toujours livrés à la mort pour l'amour de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée. Encore une fois, c'est une lecture de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2. Devenu une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Romains, chapitre 6, verset 5. Comme étant mort avec lui, nous mettons un terme à nos efforts. Je le répète. Comme étant mort avec lui, nous mettons un terme à nos efforts. Nous laissons de côté nos propres œuvres et nous entrons dans le repos. Hébreux, chapitre 10, verset 10, chapitre 4, verset 10. Affirmant dans une entière dépendance du Saint-Esprit, nous affirmons comme Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pas dit, si je vis aujourd'hui, Christ vit avec moi, en moi. Non, il n'y a plus de moi, il n'y a que Christ qui vit en moi. La vie de Dieu nous est désormais communiquée dans une plus grande mesure. Et le Saint-Esprit nous révèle le Christ vivant, demeurant dans notre âme et nous rendant capables de vivre selon lui à tous les moments. Quelqu'un dira, mais je ne sens pas encore qu'il en soit ainsi. C'est une question, c'est légitime qu'on se la pose. C'est des paroles, je suis en train de vous dire ça. Mais c'est des paroles en l'air, ça, c'est beau les paroles. Mais on peut dire, dans ma vie, je ne sens rien. Néanmoins, voilà la réponse. Et l'apôtre Paul le dit, néanmoins, c'est le message de la croix. Que tu le comprennes ou pas, c'est le message de la croix. Si tu veux absolument insister pour comprendre, justement, tu n'as rien compris. Tant que tu cherches à comprendre, tu vas te comprendre toi-même, mais tu ne comprendras jamais Dieu. Parce que pour comprendre Dieu, il faut qu'il nous emmène devant un mur où dit, je ne peux rien comprendre. Oui. Tant que l'homme veut se mettre devant pour comprendre, on est loin de comprendre Dieu. Mais quand Dieu, à travers les épreuves, nous emmène devant un mur où nous crions, mais je ne comprends plus rien, Seigneur, et d'un seul coup, il va dire, ah ben c'est bon, mais je peux commencer maintenant. Avons-nous été amenés par le Saint-Esprit à désespérer entièrement de nous-mêmes, comme la sœur Jessie Penn-Lewis? Et sommes-nous prêts à convenir qu'en nous, il n'habite point de bien? Romains 7, 18. Est-ce qu'on a expérimenté cette réalité-là? Dans ce cas-là, si c'est le cas, nous pouvons en toute confiance regarder au calvaire une fois de plus et voir que le Seigneur nous a portés en lui-même sur la croix, en même temps que nos péchés. Romains 6, verset 3 et Galates 2, 20. Prendre notre place en lui sur la croix et déclarer par le choix de notre volonté, nous sommes morts avec lui. Nous devons déclarer prendre cette position, même si ça ne se voit pas sur nous tous les jours. Je répète, même si ça ne se voit pas sur nous, nous sommes quand même morts en Christ. Le diable viendra toujours dire, si vraiment tu es mort avec Christ, pourquoi ta vie est comme ça, l'accusateur? Et bien on lui répète, ma vie comme telle qu'elle est, c'est un mensonge qui vient de toi. Même si je ne vis pas cette vie de Christ, et bien malgré tout, je suis mort en Christ et tu es vaincu le diable. Prendre notre place en lui sur la croix et déclarer que par le choix de notre volonté, nous sommes morts avec lui. Colossiens 3, verset 3, Galates 2, 20. Dès lors, jour après jour, chaque fois qu'une trace de notre ancienne nature sera remise en lumière, hein, notre nature, elle vient de temps en temps, elle apparaît, la porter à la croix et reconnaître qu'elle a été crucifiée avec lui, même si je ne vois pas tout de suite les effets. Romains 8, verset 13. Comptez sur Christ vivant en nous pour manifester sa vie d'une manière continue. Si paisiblement nous nous appuyons ainsi sur la parole de Dieu, vous êtes morts, comme le dit Colossiens 3, 3, et réclamons que la puissance de séparation de la mort de Christ intervienne envers toute manifestation de l'ancienne vie adamique et envers les liens du péché qui nous retenaient autrefois, le Saint-Esprit agira aussitôt pour faire mourir les actions du corps. Je n'ai pas les références en tête, mais dans Colossiens, il est dit « Vous êtes morts !» C'est seulement par la suite, il est écrit « Faites mourir les œuvres de la chair !» C'est-à-dire, pour me libérer du péché, il faut d'abord que je réalise que je suis mort. Et quand je réalise que je suis mort, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit commence à me faire vivre réellement la délivrance du péché. De plus, à l'heure de la tentation, lorsque Satan essaiera de rejeter sur nous nos anciens péchés ou les agissements de notre vieille nature, sous quelque forme que ce soit, nous pourrons, par la parole de notre témoignage, proclamer que nous sommes crucifiés avec Christ et faire nôtre la victoire qu'il a remportée sur Satan à la croix, refusant de nous soumettre à son pouvoir diabolique. Une question que nous pouvons nous poser maintenant. Mais comment se fait-il que notre mort avec Christ puisse devenir une réalité pour nous d'une manière instantanée? Il ne faut qu'un instant pour prendre notre place de crucifié avec Christ. Position de foi, un acte de foi. Ce n'est pas une question de se répéter machinalement je suis dans le péché. Non, je me répète ça, ce n'est pas ça. Quand on est en Christ, c'est la vie qui nous emmène à cette position dans la foi. Il faut qu'un instant pour prendre notre place de crucifié avec Christ. Mais ensuite, l'Esprit de Dieu doit jour après jour exercer sa puissance sur notre vieille nature. En quelque sorte, notre position en Christ est déclarée par la foi. Ma transformation, c'est toute une vie. C'est cela, porter sa croix tous les jours. Notre part est de la livrer à la croix, au fur et à mesure qu'elle nous est révélée d'une manière plus profonde. Une autre question. Le moi peut-il ressusciter? Puisqu'on dit qu'il est crucifié, le moi, est-ce qu'il peut ressusciter? Après avoir réalisé notre mort en Christ, de nouvelles manifestations de notre vie propre se feront probablement jour. Et nous aurons à y faire face. Car à mesure que l'œuvre de Dieu s'approfondit dans notre cœur, le Saint-Esprit nous révèle des abîmes de péché dont nous n'avions aucune idée. Du moins, la prière que nous adressons à Dieu est « Seigneur, ne m'épargne pas. On a souvent tendance à dire, Seigneur, libère-moi. Seigneur, ne m'épargne pas. Parce qu'en fait, il va en nous faisant amener dans l'épreuve, dans cette situation de reconnaître ses péchés, il va tellement creuser pour qu'on puisse vivre la profondeur de la croix et pour bénéficier de cette résurrection, de ce pardon. Il peut arriver que l'adversaire imite le moi, afin de nous faire perdre notre foi dans le fait que nous sommes crucifiés avec Christ. Il fera tout pour créer le doute en nous, pour qu'on arrive à dire, est-ce que vraiment je suis crucifié en Christ ? C'est le rôle du Satan. Dès qu'on commence à se poser la question, est-ce que vraiment, rappelez-vous la tentation Ève au jardin d'Éden. Rappelez-vous aussi la tentation de Jésus dans les 40 jours dans le désert. Est-ce que vraiment Dieu a dit? Dès qu'on crée le doute, il nous déstabilise, on est à côté, il fait ce qu'il veut de nous. Que faire quand ces difficultés se présentent? Ne tenir de pied ferme sur le rocher de la parole du Dieu vivant et déclarer, il est écrit, j'ai été crucifié avec Christ, sa mort est devenue la mienne, c'est écrit. Si nous croyons en Jésus, si nous croyons en la Bible, c'est écrit, donc je le crois. Alors pourquoi je dois douter et dire, est-ce que c'est vrai? Remettre toute trace de vie propre, réelle ou apparente au Saint-Esprit, afin qu'il s'en occupe lui-même, et refuser d'avoir quoi que ce soit à faire avec cette chose. Croire que Dieu délivre maintenant, en face de toutes les apparences contraires, et se cacher en Christ sur la croix, à l'abri de l'ennemi, comptant sur la protection du sang du calvaire. La communion avec la mort de Christ exclut-elle le sentiment? Est-ce que nous avons des sentiments? Donc est-ce qu'on peut vivre quand même avec ces sentiments-là, même quand on est dans une situation chrétienne, on a péché, etc.? Il n'a pas enlevé nos sentiments, le Seigneur. Le Seigneur n'a pas promis de faire de nous des pierres. Par l'union avec Christ en sa mort, nous sommes délivrés de notre égoïsme, de notre susceptibilité, de notre moi blessé, mais pas de notre sensibilité à l'égard de notre prochain. Dorénavant, nous verserons des larmes pour les autres, mais nous n'en verserons plus parce que nous sommes lésés. Quelques souffrances que nous ayons endurées, nous ne nous en enfoncerons plus et nous riposterons plus comme nous en avions l'habitude. Cependant, nous ne devrions pas être insensibles à la souffrance des autres. Mais nous verrons la main de Dieu dans tout ce qui nous arrivera, sachant que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 28. Si nous sommes morts, comment pouvons-nous encore être tentés alors? Si nous sommes morts, on ne doit rien sentir. Pourquoi on est tenté? Si Christ a souffert, étant tenté, et s'il fut tenté comme nous en toutes choses, Hébreux chapitre 2, verset 18, nous ne cesserons certainement jamais d'être tentés nous-mêmes. Galates 2, 20 nous donne le secret. Je suis crucifié. Christ vit en moi. Le je, c'est-à-dire l'égoïste, est cloué à la croix. Le moi, c'est-à-dire ma vie de tous les jours, ma personnalité, elle demeure pour être tentée et mise à l'épreuve tous les jours. Que signifie alors sans cesse livré à la mort? Sans cesse livré à la mort, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 11. En lisant le contexte de ce passage, nous verrons qu'il se rapporte au fait que la vie physique de Paul était continuellement exposée au danger. Il ne semble pas du tout qu'il concerne la mort spirituelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 10, en revanche, nous lisons ces mots. Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Ceci décrit la vie crucifiée qui résulte de notre acceptation des déclarations de la parole de Dieu concernant notre mort avec Christ, alors que l'Esprit Saint nous conduit de jour en jour dans une conformité plus grande avec la mort du Seigneur. Que faire si nous tombons dans le péché après avoir pris notre position, notre place dans la mort de la croix? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est là le point le plus critique de tous. Par-dessus tout, il nous faut être honnête avec Dieu et appeler le péché par son vrai nom, péché. sans essayer de l'excuser ou de l'atténuer, ni de réconcilier notre chute avec notre expérience passée, nous aurons toujours besoin de 1 Jean chapitre 1 verset 9. Lorsque nous aurons confessé notre péché et qu'il soit et proclamé devant Dieu, et bien de toujours Dieu là pour nous pardonner. Le rôle du pardon dans la vie de chrétien. Quand je pêche, je dois le confesser devant Dieu. Et Dieu me pardonne, il me rétablit. C'était le premier message sur le pardon il y a 2-3 dimanches. Après ces recommandations, ces conseils issus de la vie de la sœur Jessie Penn Lewis, qu'elle a vécue, elle nous laisse quelques recommandations. Ou plutôt, Dieu nous laisse quelques recommandations à travers cette sœur. Voilà ce qu'elle écrit. Prenons garde, en rendant témoignage, de ne pas proclamer « Je suis mort ». C'est de l'égoïsme déguisé. C'est de la fausse humilité. Car c'est attirer l'attention sur soi-même, c'est le moi sous une forme subtile. Parlant du Seigneur d'abord, ou plutôt, votre vie doit parler du Seigneur. Vous n'avez pas besoin de dire « Je suis mort », les autres verront la mort en vous. Ne recherchons jamais les expériences, mais acceptez ce que nous fait vivre Dieu. Mais abandonnons-nous entre les mains de Dieu afin qu'il agisse à notre égard comme il lui plaira, nous conduisant dans le chemin qu'il jugera bon pour nous. C'est vrai. Et chercher l'expérience, c'est de l'égoïsme déguisé. Seigneur, je veux vivre ça parce que je veux arriver à une maturité. Le Seigneur te dit, confie-toi seulement en moi, moi je dirige. Moi, c'est moi qui conduis tout. Peut-être je ne te ferai pas vivre des épreuves. Peut-être des épreuves. C'est lui qui décide, ce n'est pas nous. Faisons attention à ne pas sortir du repos de notre âme en cherchant de nouvelles bénédictions. Dieu ne peut pas agir pendant que nous sommes anxieux et inquiets. D'où la prière, et je te remercie, Jean-Louis. En prie, on veut la réponse tout de suite. C'est l'ère du numérique. Mais quand on n'a pas de réponse, on insiste, on veut la prière, Seigneur. Mais il est libre, Dieu. Il prend son temps. C'est de la patience. Et comme je dis toujours, souvent on prie pour une chose longtemps, mais on n'a pas de réponse. Mais pour moi, il a déjà donné la réponse. En ne donnant pas de réponse, sa réponse est non. Mais on veut le oui. Et on l'attribue à Dieu. C'est ce que je décide. Je te prie, Seigneur, tu dois bénir. Non, on ne dit pas tu dois bénir. Seigneur, bénis. Mais quelque part, on est en train de dire, il faut que ça arrive. Hein. Il est en train de nous dire, mais j'en veux pas. Mais non, mais ça peut être que bon, c'est écrit dans la Bible. Mais je ne veux pas. Et bien, on continue. Ne jugeons jamais la parole de Dieu d'après notre expérience. Car la parole de Dieu est vérité, quelle que soit notre expérience. Ne cherchons pas à être conscients de notre mort avec Christ. Ben oui, c'est paradoxal. Si tu es mort, tu peux avoir conscience de ta mort. Je veux être conscient de ma mort. Je veux expérimenter. Je veux voir comment je suis mort. Est-ce que vous voyez que je suis mort? Oui, je suis dans une maturité spirituelle. Et si tu ne le comprends pas, ben tiens, je vais te sortir des versets de la Bible. Le Seigneur nous dit, ne cherchons pas à être conscients de notre mort avec Christ. Ces mots-mêmes sont en contradiction l'un avec l'autre. Car si nous avions littéralement passé de ce monde à l'au-delà, nous ne sentirons pas que nous sommes morts. Nous serions seulement conscients d'être entrés dans une nouvelle vie merveilleuse. Et notre expérience de la mort serait négative. Les liens du passé ne pouvons plus en aucune façon nous retenir captifs. Et là, souvent une question que nous avons dit, quand tu seras mort, est-ce que tu pourras penser à moi dans l'au-delà, à prier pour moi, je ne sais pas. Quand on passe de la mort à la vie, on n'a plus conscience de la mort. Sinon, ce n'est plus la vie. La vie n'a de sens, c'est qu'elle fait oublier la mort. Si je suis dans la vie et je suis en train de penser à la mort, mais ce n'est pas la vie. C'est contradictoire. Prenons garde de ne pas appuyer notre foi sur l'attitude que nous avons prise par rapport à notre mort avec Christ, mais sur le Dieu qui agit. Faisons que cette attitude se transforme en réalité. Le Seigneur n'a jamais promis qu'un jour viendrait où nous pourrions regarder au-dedans de nous. Et là, ça fait des années, je me suis battu là-dessus. Quand la psychologie intègre l'Église. Terrible. On dit, il faut faire une prospection. Il faut regarder en soi. Il faut aller en profondeur pour voir ce qui ne va pas. La psychanalyse qui intègre l'Église. La réponse de Jésus, c'est quoi? Mais tu es mort. Comment tu peux faire de la psychanalyse de quelque chose qui est morte? On transforme la croix avec la psychanalyse. La psychologie qui rentre dans l'Église. On fait une prospection, on va chercher plus loin. La réponse est donnée par Christ. Tu es mort sur la croix et tu dois réaliser que tu es mort. Quand le Saint-Esprit a appliqué la mort de Christ à notre âme et l'a amené ainsi dans une vie de libération réelle, cette expérience doit être maintenue continuellement en demeurant en lui. Nul effort n'est nécessaire pour demeurer si nous nous remettons au Saint-Esprit qui nous gardera en lui, car sans que nous soyons conscients. Et dans le témoignage que j'ai vécu avec des gens chrétiens, souvent ces gens, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont morts, que Dieu à travers eux, mais moi quand je le vois, je dis mais il y a un changement en vous. Les autres le réalisent, mais les personnes qui vivent la communion de Christ ne le réalisent pas. C'est la véritable mort. Lorsque nous faisons le pas décisif en nous fiant à la parole de Dieu, gardons-nous de tourner nos regards sur nous-mêmes pour voir si l'œuvre se fait et de surveiller. On nous pousse des fois dans le milieu chrétien à nous auto-évaluer. Mais c'est terrible, c'est une catastrophe et c'est une insulte à Dieu. Je dois m'auto-évaluer, j'irai même plus loin. Je dois avoir une grille de notation pour dire à quel niveau de maturité spirituelle je suis. Mais c'est terrible comme on met l'être humain, le moi, au centre. Cet être humain, ce centre doit être crucifié parce que nous n'avons pas à nous auto-évaluer. Nous sommes morts et si nous vivons, c'est seulement la vie de Christ qui est à travers nous. Suis-je mort avec Christ? Ou ne le suis-je pas? C'est des questions que nous devons nous poser. Attendons-nous à ce que l'adversaire nous dispute chaque pouce du terrain. Et tout ce qu'il veut, c'est nous déstabiliser de notre position de mort. Le diable est vaincu à la croix. Seulement à la croix. Ailleurs, il n'est pas vaincu. Seulement à la croix. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Mais de nous dévier de l'endroit où il est vaincu. Donc il va dire tout, sauf vous êtes mort. Il va nous pousser à dire, vous devez changer, faites des efforts, faites. Mais il nous fait oublier que nous sommes morts, parce que c'est seulement là où il est vaincu. Et encore comme je le fais chaque dimanche, c'est l'occasion ce matin de rappeler au diable, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la victoire ce matin. Et nous lui proclamons, les anges chantent dans le ciel, tu es vaincu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et si aujourd'hui nous sommes réunis, parce que tu es vaincu, il est chassé du ciel. Il n'est plus au ciel. Il est pour un temps dans le monde. Il est en train de nous attaquer. Il viendra le moment où il sera aussi jugé par le Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra. Attendons-nous à ce que l'adversaire nous dispute chaque pouce du terrain. Le diable n'est pas mort. Bien au contraire. Lorsque nous trouvons un refuge en Christ sur la croix, ils sont plus vivants que jamais. Ben oui, alors là, ils commencent à gigoter dans tous les sens. Oh non, surtout pas cet endroit-là. Que le Sauveur vivant qui demeure dans nos cœurs nous garde de toute attaque subtile. Nous expérimenterons alors la victoire à chaque pas du chemin, car il est un ennemi à vaincre. J'ai fait exprès de faire cette erreur. Car c'est un ennemi à vaincre. C'est juste ce que j'ai dit. Voilà. Car c'est un ennemi vaincu. Et c'est ça la joie que nous avons en Christ. Il est vaincu. Je ne l'ai pas vaincu. Jésus qui l'a vaincu. Mais comme je suis en Christ, mais on l'a vaincu. Donc qu'est-ce qui vient de moi? Rien. Alors, je continue à dire, qu'est-ce que je fais pour toi Seigneur? Rien du tout, seulement me reposer dans la position du Seigneur. Et en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Rappelons-nous que c'est en vain que nous demandons à Dieu de nous affranchir de nous-mêmes si nous retenons volontairement une seule chose qui serve les intérêts de la vie propre. En revanche, une pleine délivrance nous sera accordée si en toute sincérité nous permettons à Christ de nous posséder entièrement et si nous déposons à la croix d'une manière toute pratique chaque élément nouveau de la vie propre. Dès qu'il nous est révélé, nous ferons bien aussi de nous souvenir que la méthode de Dieu à notre égard et de ne pas permettre qu'une épreuve nous soit enlevée avant que nous ayons cessé de gigoter et de nous confier en nous. Je répète. Souvent, on prie pour le Seigneur, enlève-moi cette épreuve. Mais nous vivons des épreuves dans la vie, et la première chose que nous avons, et c'est humain, et c'est normal, moi le premier, je le fais. Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. Mais quand on grandit avec le Seigneur, avec les années, la prière change. Seigneur, merci pour cette épreuve, même si humainement, je n'arrive pas à l'accepter. Mais qu'est-ce que tu veux m'enseigner à travers cette épreuve? Pourquoi tu as permis cette épreuve? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? La prière change et d'un seul coup, on se voit grandir en Christ, l'épreuve devient une bénédiction. Même si humainement, on souffre, ça, on ne peut pas le mettre de côté. Et quand le Seigneur nous délivre de cette épreuve, ou des fois on vit avec, on se réalise. Pourquoi l'épreuve? De quoi, à quoi il veut m'amener le Seigneur? C'est une pratique de tous les jours. La méthode de Dieu de notre égard est de ne pas permettre qu'une épreuve nous soit enlevée avant que nous ayons cessé de nous regimber contre elle. Par conséquent, il nous est plus avantageux de dire tout de suite, oui Seigneur. Pour terminer, la fin que le Seigneur nous accorde, comme dans Jacques 5:11, est la vie. Dans tout cela, le Seigneur veut nous amener vers la vie. La vie qui découle de la mort. Il n'y a pas de vie sans mort. La vie vient après la mort. Si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Romains 6, verset 5. Fions-nous à lui pour qu'il accomplisse son œuvre dans nos cœurs, tandis que nous cédons à son action. Confions-nous en lui implicitement et obéissant sans rechigner à la parole de Dieu. Amen. Chaque fois, je reconnais que c'est des paroles dures, peut-être qui sortent de l'ordinaire. Mais il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Celui ou celle qui vous dit il y a un autre chemin, c'est un mensonge devant Dieu. Il n'y a que le chemin de la croix. Ma nature doit mourir pour que le Seigneur puisse prendre toute la place. Je dois réaliser que le Seigneur, que je suis déjà mort en Christ. Et quand je réalise cela, à ce moment-là, le Seigneur dit, maintenant, je vais t'aider avec toi, je vais porter la croix avec toi. Et tous les jours, on peut se transformer. Comme d'habitude, c'est ce sujet partagé aujourd'hui fera l'objet d'un échange mercredi prochain à 20h30. Où nous revenons, je fais un résumé de ce que nous avons dit et nous échangeons à travers des questions. Et toujours notre prière, et c'est la plus importante, c'est que ce que permet le Seigneur qu'on partage devienne une règle de vie et que ça se voit dans notre vie. Sinon, il n'y a aucun sens. Amen.